Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir. En chair et en os, souriant. Alors, mon fils, il m'a dit au petit-déj, comme c'est le premier culte sans restriction, tu dois faire une bonne prédication. Alors, je vais voir ce que je peux faire. C'est bon, il n'est plus là, vous pourrez lui dire si c'était bon ou pas. Je trouve que ça va assez bien avec le thème que j'ai choisi ce matin, exigence et grâce. Il y a une forme d'exigence et nous sommes sous la grâce. C'est un peu ce que je retiendrai depuis un mois qu'on fait cet effort d'une certaine façon. Peut-être c'est un effort aussi joyeux, mais c'est une forme d'effort avec ce livre. Un mois pour aimer, plus j'avance, plus je me dis qu'il y a une forme d'exigence. Je ne sais pas pour vous. Mais quand on commence à creuser cette notion d'amour, puis qu'on n'apprend pas seulement au niveau superficiel, mais qu'on se rend compte qu'est-ce que ça signifie concrètement, particulièrement là où c'est un peu plus compliqué, puis on a eu deux témoignages sur le groupe WhatsApp cette semaine qui nous ont parlé de situations où c'était plus compliqué, là on commence à creuser, puis on se dit que l'amour, il y a une forme d'exigence, hein, parce que toutes les relations ne vont pas comme sur des roulettes. Ne vont pas comme ça en claquant des doigts, puis que c'est super facile à vivre. Et là, on se rend compte que le moi pour aimer, ben, il est mis un peu à contribution. Hein. On se dit, est-ce que je suis crédible? Surtout moi qui vous raconte des prêchis-prêchas un peu tous les dimanches. Comment est-ce que je vois les choses? Comment est-ce que j'essaye de les pratiquer? On se rend compte que c'est exigeant. Et pourtant, je me sais sous la grâce. Et je vous sais aussi sous la grâce. Sinon, ce serait un peu compliqué. Sinon, ce serait un poil compliqué, puis je ne suis pas sûr qu'on survivrait très longtemps. Et souvent, on ne survit pas tellement parce qu'on se met une pression un peu trop importante, je crois, en tant que croyant. Je vois des têtes qui hochent comme ça. On se met une pression qui est assez forte, peut-être même trop forte. Et puis, j'ai aussi envie de nous libérer de cette pression-là avec le texte qu'on va lire ce matin. Pour vraiment prendre en même temps ces deux mots, si vous devez retenir que ces deux mots, exigence et grâce, on n'a pas besoin d'en éjecter un pour garder l'autre. On n'a pas besoin de se dire on n'est que exigeant, puis finalement la grâce, c'est qu'une grâce à bon marché, puis on n'en a pas tellement besoin. Puis le contraire, on n'a pas besoin de balancer ce qui concerne les exigences, parce qu'elles sont là. Et on se rend compte en approfondissant cette notion d'amour de Dieu et du prochain. Et pourtant, pour les vivre, on ne peut que compter sur la grâce qui nous est faite d'être libres de les vivre et d'être conscients que c'est grâce à Dieu que nous pouvons les vivre. Alors moi, ce matin, j'ai envie de faire comme Paul, de vous encourager. Je vous encourage donc, je lis dans Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, mes frères, moi j'ajoute mes sœurs, j'espère que le Seigneur ne m'en voudra pas à la fin des temps, au nom de toute la magnanimité, ça c'est un peu compliqué comme terme, hein, de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est nettement moins compliqué, mais c'est plus que difficile. Saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé ou agréable et parfait. Quand je vous parlais d'exigence. Mais par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacune et chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération. Chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Et ce n'est pas une répétition fortuite. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement. Celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui dirige avec empressement. Celui qui exerce la compassion qu'il le fasse avec joie. Et que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez dans la détresse, consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin et poursuivez l'hospitalité. Le peuple de Dieu dit Amen. C'est dense, hein? On a l'impression que tout ce qu'il a en tête, tout ce qu'il a dans le cœur, tout ce qu'il a même dans ses tripes, il le couche là, à la fin de cette lettre aux Romains, et puis il le balance à l'Église qui est réceptive, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il le balance de cette manière-là à l'Église qui est à Rome, qui est une Église en construction. Il y a énormément de choses. Et je vais en retenir trois, parce que voilà, j'ai fait ma sélection, vous pouvez en retenir d'autres, évidemment. Et on va commencer par cette notion d'encouragement. Et si je dois retenir un élément pour moi de ce que Paul transmet durant tout son ministère, il y a vraiment cette notion d'encouragement. Essayez une fois de lire toutes ces lettres, parce qu'elles peuvent être parfois un peu ardues, et puis on laisse un peu sur notre faim, ou bien on laisse de côté ces lettres parce qu'elles sont un peu trop ardues, mais prenez-les une fois sous l'angle de l'encouragement. Et vous allez voir à quel point il y met de l'énergie, du cœur, des tripes, pour simplement encourager toutes ces églises, ces communautés qu'il a fondées pour les élever. Essayez de regarder à quel point c'est présent dans toutes ces lettres, comment Paul manifeste l'énergie qu'il y a dans la communauté pour l'élever et puis pas pour la rabrouer. Pour se dire, allez mes frères et mes sœurs, on y va, on est sur le bon chemin, on poursuit le bon combat et on est dans la juste voie. Pour moi, Paul est un exemple extraordinaire d'encouragement. Et sur un chemin qui est exigeant, comme le chemin de l'amour, on est obligé de pouvoir s'encourager les uns les autres. On n'a pas le choix. Si on commence à se critiquer les uns les autres sur ce chemin-là, on est un peu cuit, hein. On est un peu cuit, on n'a aucune chance d'y arriver. Et Paul en est bien conscient et je trouve qu'il est de nouveau là d'une force assez extraordinaire parce qu'il ne diminue pas ses exigences. Hein, puis on le voit dans ses lettres, il continue d'être exigeant. On le voit à travers cette liste impressionnante de choses qu'il nous encourage à faire. Et pourtant, il garde ce focus sur le fait que le peuple de Dieu, la communauté que Dieu s'est choisie, peut s'élever à travers ces actions que Dieu lui commande. Encourager signifie par définition qu'on n'est pas tout seul à vivre notre mission, mais qu'on est tout un groupe à le vivre. Puis là, on a un petit nombre ce matin, mais si on imagine l'ensemble de l'Église avec un grand E, on est énormément à essayer de vivre cette même conviction d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'autre est important pour que je puisse vivre ma mission. L'autre, ce n'est pas un handicap pour que je puisse vivre ma mission. L'autre est important pour que je puisse pleinement vivre ma mission de croyant, d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Bon, déjà, tout simplement, parce que s'il n'y avait pas d'autre, il n'y aurait pas de prochain, donc j'aurais un peu de la peine à aimer celui qui est à côté de moi. Ça, on a bien compris. Mais plus en avant, c'est de se dire que l'autre va m'aider à m'élever sur ce chemin-là, à m'affermir sur ce chemin-là, à approfondir ce que je peux pratiquer au niveau de l'amour, plutôt que d'être un handicap. Je crois que c'est le postulat de base, même si ce n'est pas toujours la réalité, je ne suis pas complètement naïf, mais c'est le postulat de base qui nous est transmis par la parole. L'autre est important pour que je puisse vivre ma mission de croyant. Et là, ça nous fait tirer, j'ai envie de dire, tous à la même corde. On ne sent pas simplement ce « moi » isolé, c'est peut-être ce que j'aurais le plus de peine dans ce titre de livre, mais on se sent vraiment « nous ». Et puis j'ai bien aimé ce qu'on a pu vivre en communauté depuis un mois, à travers notamment le groupe WhatsApp, à travers aussi le fait que, bon, on est quand même plus d'une centaine à avoir acheté ce livre, donc on se dit, ben voilà, il y a une certaine émulation à essayer de creuser cette question et essayer de la vivre, parce qu'on est ensemble pour essayer de vivre notre mission. Et ne l'oubliez jamais, parce qu'on parle beaucoup de se dire qu'on est missionnaire chacun dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie. Un de mes encouragements, c'est de vous dire, ben, ce qu'on vit ce matin, ce qu'on vit tous les dimanches matin, prenez-le avec. Puis vous dites, je ne suis pas tout seul sur ma place de travail pour aimer. Regardez-vous les uns les autres. Puis vous dites, tous ceux qui sont autour de moi ce matin, ils ont tous reçu la même mission de Dieu. Et je vais pouvoir prier pour eux, qu'ils puissent accomplir cette mission d'aimer Dieu et d'aimer leur prochain là où ils sont placés. Oui, vous êtes tous, et moi aussi, dans cette mission-là. Et à ce niveau-là, c'est beau aussi de voir, dans notre partage, tous les styles et toutes les manières qu'on pratique finalement sur ce terrain de l'amour. Et là, je trouve que c'est aussi une magnifique occasion pour nous, en tant que communauté, de percevoir et d'illustrer cette différente sensibilité. Certains, ce sera par la parole, ils vont facilement donner leur témoignage. D'autres, ce sera par des petits SMS que je reçois juste moi pour dire, ben voilà, j'ai pu vivre ça. Ou quand je rencontre quelqu'un qui me dit, ah oui, j'ai vécu ça. C'est absolument magnifique de voir comment le Seigneur agit dans les différentes vies et puis comment après ça peut se manifester. Quand on dit qu'on aime bien la diversité dans notre Église, ce n'est pas simplement un slogan. Hein. C'est que ça se manifeste concrètement par ces petites touches qui font finalement le charme de la vie chrétienne, qui font le charme aussi de la vie en communauté. Et là, c'est aussi un peu ce que dit Paul. Donc, pour être aimant, le slogan du jour, soyons encourageants. Et puis, je pense qu'en étant encourageant aussi, on peut jouer sur le jeu de mots. J'y pense maintenant. On peut aussi être des aimants, d'après moi. Des aimants généralement qui s'attirent les uns les autres et décourageants, c'est des aimants qui se défont les uns des autres. Mais pour être aimant, soyons encourageants. Et cette diversité, on la retrouve vraiment de manière significative dans ce texte. Parce qu'effectivement, il y a une longue, longue liste de choses à faire. Des encouragements à pratiquer. On peut penser à honorer l'autre. Honorer l'autre, ça va avec l'encourager. De s'être empressé pour faire la volonté de Dieu, de le faire avec joie, de pratiquer l'hospitalité. J'égrène un peu les différents éléments de cette liste. Mais ce qui compte, c'est que chacun puisse le faire selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Et là, de nouveau, on se rend compte que cette diversité des dons, cette diversité des sensibilités, des personnalités, c'est bien plus qu'un slogan. Parce que ça, cette simple phrase, ça signifie qu'on évite de manière convaincue toute tentative de se benchmarker. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, se benchmarker. C'est un terme qui est super à la mode, puis que vous êtes tous victimes de ce terme sans vous en rendre compte. Parce que c'est ce qu'utilisent les gérants du marketing. Et puis chaque fois que vous allez sur un site internet, par exemple, vous laissez une petite trace de votre passage, qui s'appelle des cookies. Et puis ensuite, les analystes, ils ont une mine d'or. C'est pour ça que ça vaut des paquets d'argent, ces données. Parce qu'ils analysent sur ce site-là, il y a telle personne qui allait voir tel habit ou tel petit gadget électronique. Et là, ensuite, on se benchmark. On se dit, ben, sur ce produit-là, il y en a 10 000. Sur ce produit-là, il y en a 2 500. Et puis du coup, on arrive à faire des comparaisons et puis regarder ce qui est le plus efficace et ce qui est le plus vendeur. Quand on dit que Dieu donne d'agir chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage, on prend un contre-pied magistral de ce benchmarking et on évite le piège par excellence qui peut nous guider en communauté, c'est commencer à se comparer les uns les autres et notamment sur ce domaine de l'amour. Il y a les bons chrétiens, il y a les moins bons chrétiens, puis généralement, regarde celui-là, il est quand même un tout petit peu, soit mieux, soit moins bon que moi. C'est lié à notre trip, ce truc de comparaison. Puis les marketeurs, ils ont bien compris ça, puis ils le mettent simplement en outil. Mais cette petite phrase, que chacun, selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage, ça change complètement notre compréhension de la diversité et de ce que je suis capable, en tant que moi, d'apporter à la communauté. Dieu, dans sa grâce, va l'agréer. Dieu, dans sa grâce, va le valoriser. Et nous sommes appelés, si nous aimons Dieu, à vivre exactement la même chose. Nous sommes appelés non pas à regarder en termes de mesure, mais en termes d'encouragement, d'élever et d'honorer. Et là, on retrouve cette exigence, d'après moi, d'aimer sans hypocrisie, d'aimer de manière vraie pour que l'autre puisse grandir dans sa manière de vivre la foi. Et puis, je crois qu'après, la manière de vivre ses dons, on se rend compte, elle est très différente, et puis on se rend compte juste à travers ce mois de mobilisation, de la manière dont ça se manifeste. Mais ce qui compte, c'est que ça se manifeste. Et puis même si on ne le voit pas et que ça ne se manifeste pas, qui vous dit que ça ne se manifeste pas dans le secret des cœurs et que ça ne s'approfondit pas de cette manière-là? Qu'est-ce qui peut nous le dire? Bien malin, hein, qui pourrait nous le dire? Chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Gardez-y ça pour vous, ça enlève pas mal de pression et pour la communauté et pour l'individu. Et finalement, troisième mot-clé, discerner ce qui est bon de faire, parce que, autant le dire tout de suite, impossible de faire toute la liste que Paul nous propose. C'est peut-être un peu, je ne sais pas, osé ce que je dis en tant que pasteur, parce que je vous dis que c'est impossible de faire tout ce que la Bible nous propose de faire. Et je l'appuie de nouveau par le fait que c'est dans le texte même qu'on le trouve, cette impossibilité. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives. Il y a de l'exigence, mais il n'y a pas de l'excès, j'ai envie de dire. Il y a de la pondération, même dans les exigences de la parole. Puis ça, ce n'est pas rien. Moi, je pense qu'il faut plutôt prendre cette liste comme étant un panorama des possibilités qui nous sont offertes dans notre quotidien de mettre en pratique l'amour de Dieu puis l'amour les uns des autres. Pas comme une liste exhaustive que je dois cocher chaque matin de savoir si j'ai absolument tout fait ce qui m'est proposé par l'apôtre Paul. Ça donne une perspective assez différente. Parce que cette liste, je pense qu'elle peut être complètement vécue que si on se prend comme ensemble, comme communauté des croyants. Et je crois que c'est la pointe de la communauté et de ce que Paul veut nous dire quand on fait partie d'un seul corps. Ce n'est pas pour nous mettre comme exigence l'entier de ce qui est possible à réaliser. Ce n'est pas moi qui ai appelé à tout faire ce que Paul nous propose, mais c'est ensemble qu'on pourra peut-être avoir en tout cas une partie du tableau qui sera plus complète. Et c'est en mettant ensemble ses ressources et ses dons, en étant disponible finalement pour Dieu, qu'on va pouvoir pratiquer ce qui nous est demandé. Donc un mois pour aimer, je vais pouvoir peut-être un peu débattre avec Gilles, c'est bien pour nous mobiliser, mais je pense que c'est de loin pas suffisant pour le vivre pleinement selon le plan de Dieu. Ce serait beaucoup mieux de mettre un « nous » pour aimer, finalement. Parce que tout seul, on a un peu laissé à soi-même. On a un peu laissé aussi avec des prétentions qui peuvent être excessives, justement, parce qu'on se met trop la pression. Un « nous » pour aimer, non seulement ça nous permet d'encourager, mais ça nous permet de vivre pleinement ce que Dieu veut pour sa communauté et son Église. C'est-à-dire un ensemble de dons qui sont réunis et pas un ensemble de dons qui est concentré sur chacune et chacun des croyants. Ça change pas mal la perspective. Hein? Ça change pas mal la perspective. Il est impossible de tout faire. Alors soyez-en libérés. Si vous aviez ce poids-là, soyez-en libérés. Et je conclurai par cette parole que j'ai reçue quand on a fait notre retraite de conseil à Saint-Loup en automne dernier. Et chaque fois, la communauté a une parole pour l'année. En l'occurrence, c'était pour 2021. Et on voit de nouveau les belles, je dirais, correspondances, les beaux échos qu'on trouve dans la parole, parce que là, je vous prêche sur un texte du Nouveau Testament. Là, ce texte qui nous est laissé, c'est un texte des psaumes, dans le psaume 143, c'est-à-dire plus de 600 ans ou 700 ans avant, je ne sais pas, qui nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Et je crois que durant ce mois, on a pu être enseigné sur quelle est la volonté de Dieu. « Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit ou ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et si je prends le texte dans son ensemble, c'est psaume 143, versets 8 à 10, qui nous dit « Fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je m'élève vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, je me cache auprès de toi. » Et ce même verset 10, « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton souffle bienfaisant me conduise sur une terre aplanie. Notre exigence, elle est claire, c'est faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, elle est concentrée dans ces deux commandements d'amour, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Et la grâce, c'est ce souffle bienveillant ou bienfaisant, ou ce souffle bon, qui me conduit sur une terre aplanie. Si on garde que la première partie, « Apprends-moi à faire ta volonté », on est cuit. Si on se dit que c'est juste mon Dieu puis que je l'utilise quand j'en ai envie, on n'est pas dans la vérité. « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » On peut faire cette volonté de Dieu uniquement parce qu'on est en relation avec notre Dieu et qu'on peut dire « Car tu es mon Dieu. » Tu n'es pas quelqu'un d'éloigné, mais ton souffle bienveillant va me permettre d'avancer sur ce chemin-là et peut-être même que ce chemin va s'aplanir. Alors, allons-y, j'y dirais joyeusement, avec... Nous sommes réunis ici, tous ceux qui nous sommes réunis ici, et sûrs de ce souffle bienveillant qui est actif dans nos vies. Amen.